Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô.
Allô Europe 1.
Allô Elena.
Elena Morna.
Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures de conseils pratiques et de bien-être. Au programme ce matin, la journée du bonheur, c'est aujourd'hui. Il paraît que notre socle de bonheur réside dans l'enfance, est-ce votre cas? C'est aussi la semaine de la langue française et de la francophonie. Notre langue est-elle en danger? 39-21 pour vos questions et vos témoignages. Et puis, à partir de 11h, notre grand dossier santé sera consacré à vos dents. Comment les remplacer quand il le faut, sans se ruiner? Nous parlerons aussi d'un bébé anglais sauvé grâce à une photo sur Internet, ainsi que des allergies au pollen qui se transforment en asthme. Toutes les réponses à ces questions avec nos experts et l'équipe d'Allo Europe 1. J'attends les vôtres de questions au 3921 ou sur europe1.fr. Et puis, comme chaque jour, les répondeurs de Maître Pérez et du docteur Kirzek qui vous conseillent en direct. On commence par le bloc-notes et les infos qui changent le quotidien avec Elisabeth Assayag et Roland Pérez.
Allo Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Allo Elena.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Elena et bonjour à tous.
Bonjour Roland.
Salut Elena, salut à tous.
Alors Elisabeth, vous nous parlez aujourd'hui du bonheur et d'une étude réalisée par SOS Village d'Enfants.
Oui, et cette étude nous montre que la cellule familiale est la base de l'épanouissement d'un enfant. Tout, absolument tout, se joue à ce moment-là. Et je vais vous donner un chiffre qui fait du bien. 9 Français sur 10 déclarent avoir été heureux dans leur enfance. La première raison du bonheur pendant l'enfance, eh bien, c'est l'amour, l'amour de leurs parents pour 78% des enfants, et ainsi que l'amour de leurs frères et sœurs, ça concerne 58% des enfants, et c'est ça qui construit une identité, comme nous l'explique Gilles Paillard, il est le président de SOS Village d'Enfants.
Qu'est-ce qui va marquer le bonheur chez un enfant? Bon, assurément, c'est l'amour. Mais c'est aussi, dit-il, quand je suis entouré par ma famille ou quand je suis dans un environnement agréable. Il a besoin d'avoir des passions, des loisirs, il a besoin d'avoir des amis. Et il dit une chose intéressante, c'est qu'il est très heureux quand il part en vacances avec ses parents. Quand vous avez vécu une enfance pacifiée, entouré, eh bien vous faites des adultes qui sont ouverts à l'autre, qui se respectent et qui ont envie de retransmettre cet amour qu'ils ont vécu étant enfants pour leurs propres enfants. Alors, en cette journée internationale du bonheur, si j'avais un conseil à donner aux parents, je dirais, passez du temps avec vos enfants. Éteignez la télé, parlez, échangez, écoutez, jouez, et ça fait un enfant heureux et une famille heureuse.
Et éteignez les téléphones aussi. Hein. Une chose est certaine, les enfants ont une aptitude innée au bonheur. Hein. Ils se réveillent le matin et ils peuvent se mettre spontanément à chanter. Cette capacité au bonheur, eh bien c'est aussi la capacité de l'enfant de pouvoir savourer pleinement chaque instant. Il vit davantage dans le présent et ils ont une force d'oubli beaucoup plus forte que l'adulte où nous on s'endort avec nos soucis et très souvent on se réveille avec nos soucis, ce qui n'est pas le cas de l'enfant. Pour un enfant, tout est toujours une première fois et il arrive à faire table rase de ce qu'il a tracassé la veille.
Alors je rappelle quand même que SOS Village d'Enfants, cette association qui vient en aide aux enfants et aux familles, ce sont quand même 1000 enfants qui sont recueillis dans 14 villages et c'est une association à soutenir le bonheur, on aime.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins.
Allez, on passe maintenant à Roland et aujourd'hui, vous nous parlez de ce combat d'une personne qui est ni femme ni homme, son combat pour obtenir un état civil de sexe neutre, ce serait donc le troisième genre?
Oui, le troisième genre, intersexe, un mot dont on a du mal à comprendre le sens justement pour cette grande journée aujourd'hui de la grammaire et de l'orthographe. Et pour la première fois en France, Gaëtan, né ni homme ni femme, demande à la Cour de cassation d'être justement reconnu tel quel à l'état civil, c'est ce qu'on nomme très exactement un sexe neutre. Gaëtan souhaite une fois pour toutes, dit-il, d'être débarrassé de son sexe de fiction. Et c'est mardi que la plus haute instance judiciaire en France aura à connaître de cette affaire. Alors il faut savoir que son cas n'est évidemment pas isolé, car les intersexes, comme on les définit également, n'en peuvent plus d'être ignorés par l'état civil et par la société. D'autant que dès leur enfance, on les soumet de force à de douloureuses opérations d'assignation de sexe pour les ranger de force dans l'une des normes binaires reconnues légalement, masculin ou féminin. Alors cette mutilation a été d'ailleurs reconnue par François Hollande lui-même vendredi qui dans Libération, alors qu'il recevait des associations de lutte contre les discriminations, le président a exprimé sa volonté que soient interdites en France les opérations chirurgicales sur de nombreuses personnes en France intersexes, ce qu'on désigne aussi sous une ambiguïté sexuelle. Signalons d'ailleurs que la France s'est fait taper sur les doigts en mai 2016 par le comité contre la torture de l'ONU qui l'exhortait à prendre des mesures législatives, administratives ou autres pour garantir le respect de l'intégrité physique des personnes intersectées. Sachez enfin qu'environ 200 enfants sur les 800 000 naissances annuelles en France seraient intersexes. Alors pour Gaëtan, à 66 ans, il veut pouvoir enfin vivre en paix avec son corps. Lorsqu'il est né, ses parents l'ont déclaré comme un garçon et l'ont élevé tel quel. Et ce n'est qu'à 12 ans que ses parents lui ont parlé de ce qu'ils lui ont dit qu'il était différent. Enfin, une sorte de monstre, lui ont-ils dit. Gaëtan a dû vivre avec cette ambiguïté rejetée de tous, sans explication réelle et dans un secret familial étouffant. Gaëtan va tout de même se marier à 42 ans avec une femme qui partage son secret et ses conséquences d'un point de vue sexuel et où la tendresse, l'amour font enfin partie de sa vie. Le couple va même pouvoir adopter un enfant, lequel a 25 ans aujourd'hui. Et puis évidemment, Gaëtan s'est fait aider et a rejoint les associations d'intersexes qui lui valent aujourd'hui son combat devant la justice.
Et on suivra ce combat. Le chiffre du jour, c'est 73. 73% de la population considère la langue française comme difficile. Voilà pourquoi on la réforme. Alors pour certains, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, c'est un danger. Et vous, chez vous, qu'en pensez-vous de cette réforme de l'orthographe initiée en 1990, hein, c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, appliquée, 3921 europe1.fr, hashtag AlloE1 pour vos questions, pour vos réactions. À tout de suite.
Allo Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allo Elena.
Elena Morna.
C'est la semaine de la langue française et de la francophonie. À cette occasion, je vous propose un cours d'orthographe avec un prof qui va simplifier tout ce qui vous semble compliqué. J'attends vos questions, vos témoignages. Dites-nous ce que vous pensez des réformes de l'orthographe ou encore du fameux prédicat. Tiens, avez-vous le sentiment que la langue de Molière est malmenée? 3921 europe1.fr pour vos questions et vos témoignages. Bonjour Jean-Joseph Julot.
Bonjour.
Vous avez eu du mal à dire Jean-Joseph.
Oui, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on appelle un virlangue. Alors voilà, les sons s'enchaînent et on trébuche, mais c'est pas grave.
Alors vous êtes professeur de français, romancier, également auteur de plusieurs livres pratiques comme Ce cahier, un cahier de dictée pour les nuls, ou La littérature française pour les nuls également aux éditions First. Alors la baisse du niveau des écoliers français est aujourd'hui une réalité. Par exemple, sur une même dictée d'élèves de CE2, en 1987, il y avait 10 erreurs. En 2007, 14 erreurs. En 2015, puisqu'elle a été faite cette même dictée en 2015, 18 erreurs. Est-ce que c'est si grave de ne pas maîtriser l'orthographe, Jean-Joseph Julot?
Grave, je pense que c'est un mot un petit peu fort. C'est gênant et ça peut être handicapant parce que pour tout ce qui concerne ensuite la vie civile et quelque vie que ce soit d'ailleurs, même amoureuse, eh bien il faut posséder l'orthographe, autrement ça ne fait pas très sérieux.
Ça me fait penser à la fameuse lettre de Gainsbourg où il dit une femme lui écrit une lettre qui est bourrée de fautes d'orthographe et il en a fait une chanson.
Alors là, oui, évidemment, elle a perdu la partie cette femme puisqu'elle
en relisant
fait trop de fautes d'orthographe, effectivement. Mais je pense que les élèves aujourd'hui sont sollicités de tous les côtés, par une tablette, par un téléphone, par des jeux. Et puis aussi, le nombre de disciplines a augmenté. L'emprise, si on veut, de ces disciplines fait que le souci de l'orthographe est beaucoup moins important qu'il ne l'était.
Est-ce que, vous le dites, on passe plus de temps à faire autre chose, moins de temps aussi scolaire consacré à l'orthographe, à la grammaire, d'autres disciplines sont entrées dans les écoles, comme le numérique, la sécurité routière, mais en même temps c'est aussi utile.
Hein. C'est utile, effectivement, et on comprend que l'orthographe baisse un peu parce que l'esprit, l'intelligence, tout cela, la concentration, connaissent des limites, et puis on ne peut pas donner partout, les élèves d'aujourd'hui ne peuvent pas donner dans tous les domaines.
Est-ce que les nouvelles pédagogies, les réformes successives sont pour vous contre-productives ?
Alors, il y a eu un temps où quand même ces réformes étaient n'allaient pas dans le sens de l'effort qu'il faut fournir pour retenir les choses et pour réfléchir. On disait, l'élève est capable de comprendre du premier coup et puis c'est pas la peine de lui rabâcher ça, de lui rebattre les oreilles, et non pas rabattre les oreilles, de lui rebattre les oreilles avec des règles de grammaire ou d'orthographe. Après tout, il les acquérera petit à petit. Eh bien non, l'acquisition des éléments se fait par la répétition.
Alors, je voudrais qu'on parle avec Elisabeth qui est avec nous au 3921. Bonjour Elisabeth.
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Alors, merci pour vos émissions.
Oh, c'est gentil, vous nous contactez de Metz.
Oui.
Et justement, vous vouliez nous parler de votre chagrin, de votre colère peut-être,
oui,
concernant l'utilisation de mots anglais.
dans la langue française.
Par exemple, oui, parce que de plus en plus partout, on voit des enseignes qui sont, comment on dit, mi-figue, mi-raisin, qui sont mi-chèvre, mi-chou, etc.
Quel type d'enseigne, par exemple?
Eh bien, par exemple, vous avez un coiffeur qui s'intitule Hair Coiffure.
Ah oui, alors les coiffeurs sont très forts.
Plein de choses comme ça. Quand j'habitais près d'Angers, il y avait la promotion d'une institution qui s'appelait Loire Valley. Comme la Silicon Valley, qui est justifiée en Californie, mais pas sur la Loire.
Et vous, vous trouvez ça ridicule, en tout cas?
Je
vous...
trouve ça complètement ridicule. La langue française est magnifique, il y a plein de mots merveilleux. On parle du French bashing, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le dénigrement de la France?
Alors,
Jean-Joseph, nos amis québécois ont très bien compris les choses.
C'est vrai que là-bas, tout est traduit en français, Elisabeth.
Beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'un selfie, là-bas, ça s'appelle un égo-portrait?
Un égo-portrait. Et effectivement...
C'est bien plus joli.
Oui, et c'est comme bed and breakfast, là-bas, on le dit couette et café, qui est également très joli. Jean-Joseph, vous êtes d'accord effectivement avec Elisabeth?
Ah, je vous rejoins tout à fait, Elisabeth, et pas plus tard que tout à l'heure, je vois sur une affiche dans le métro, je vois hipster, on a des hipsters. Et je me suis dit, j'abandonne, je ne prends pas ce message publicitaire parce que je ne sais pas ce que d'accord. c'est qu'un hipster. Ouais. Moi, peut-être que
vous l'auriez traduit comment, vous, le hipster en français?
Mais j'ai regardé, maintenant, ouais. c'est un bobo, c'est un anticonformiste. Ouais. Voilà.
Et sauf qu'aujourd'hui, ils sont tous pareils, donc tous conformes.
J'ai enquêté sur mon iPhone et j'ai vu que c'était un anticonformiste. Mais on est obligé d'avoir un outil de traduction.
Vous avez enquêté sur votre mobile?
Oui,
Jean-Joseph.
sur mon mobile, pardon. Oui, et j'ai trouvé donc effectivement qu'il y avait des équivalents français. Vous savez qu'il y a une commission ministérielle qui s'occupe justement des équivalents français. Mais il semble que la collaboration avec d'autres pays où la langue anglaise est le véhicule le plus pratique, eh bien, produise ces occurrences multipliées de termes anglais. Alors, c'est à nous effectivement d'être vigilants.
Alors, on va voir effectivement si ces mots étrangers, parce qu'il y a des mots anglais, il y a aussi des mots qui arrivent du Maghreb, qui arrivent de la péninsule ibérique. On va voir si ces mots appauvrissent ou enrichissent la langue. Je vous remercie, Elisabeth, pour vos réactions. Vous tous également, vous pouvez réagir au 3921 ou sur europe1.fr. On parlait de cette petite lettre de Serge Gainsbourg qu'il relit. Écoutez.
C'est toi que j'aime, ne point qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences.
C'est toujours bon de réécouter du Serge Gainsbourg.
Allô, Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allô, Elena?
Elena Morna.
Petit cours d'orthographe à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Jean-Joseph Julot vous conseille en direct. J'attends vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Christine de Boulogne-Billancourt en région parisienne nous a contacté au 3921. Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors vous, il y a une chose qui vous énerve, c'est l'absence de liaison, notamment concernant les euros.
Mais c'est épouvantable. Tous les, alors qui ce soit les journalistes, les présentateurs, les gens dans la rue, tout le monde, plus personne ne fait de liaison avec un 10, par exemple, 10 euros.
Oui,
et 10 ben non,
euros.
On entend 10 euros.
Oui.
Et 20 alors, euros, 3 euros.
Alors ce serait 20 euros, mais ce serait...
Et 20 euros.
Voilà, on va revoir la règle. La règle avec, effectivement, Jean-Joseph Julot. Quand on fait la liaison ou quand on ne doit pas la faire, notamment avec les chiffres, hein, parce que c'est...
Quand on l'utilise à la place d'euros, on met les années, on ne fête pas les 20 ans, on fête les 20 ans.
Bah voilà, et ben voilà. Jean-Joseph n'a plus besoin de le dire puisque vous venez de le rappeler.
c'est excessivement simple.
Jean-Joseph
Ce qu'on ignore, c'est la règle de l'accord des adjectifs numéros cardinaux. Seuls 20 et 100 prennent la marque du pluriel lorsqu'ils sont multipliés et non suivis d'un autre nombre. Mmh. Par exemple, 80, eh bien je vais mettre un S et je vais faire la liaison, je vais dire 80 euros. 100 ne prend pas d'S forcément puisqu'il est tout seul, donc 100 euros. Mmh. Si je dis 200 maintenant, eh bien 100 est multiplié par 2, je vais dire 200 euros.
Et si vous dites 202?
202 euros, puisque 2, DEUX, est suivi de euros, donc j'ai 2 euros dans ma poche, j'ai 3 euros dans ma poche.
83 juste sur le 20, est-ce qu'il prend un S ou pas d'S?
Dans 83, le 20 ne prend pas d'S puisqu'il est suivi d'un autre nombre.
Et pourtant, il est quand même multiplié par 4.
Il est multiplié par 4, mais il ne prend pas d'S parce qu'il est suivi d'un autre nombre. J'en profite aussi pour dire que au-dessous de 100, on met un trait d'union entre les chiffres, n'est-ce pas? Sauf dans 21, 31, 41, 51, 61, 71.
Parce qu'il y a le « et ».
Parce qu'il y a le « et ». Alors, il y en a qui vont dire « oui, mais ça a changé avec la réforme ». D'accord, la réforme peut-être. Mais la réforme, vous savez, ce ne sont que des recommandations. On n'a pas d'obligation. On a toujours la liberté d'écrire comme on le veut, un français standard qui est sans risque.
Alors la réforme, elle vise entre autres notamment à faire disparaître certains traits d'union, comme ceux que vous venez de rappeler parmi les chiffres. Quelle est leur utilité? Parce que, alors on se dit, est-ce que c'est effectivement, on aura tout à l'heure Martine qui nous dit que les réformes de l'orthographe, c'est le nivellement par le bas. Mais finalement, là, est-ce que c'est pas une façon de la rendre plus accessible? À quoi servent ces traits d'union?
Ces traits d'union sont en général un petit bricolage qui a été fait pour unir deux éléments et pour former un mot nouveau. Mmh. Il y a un phénomène d'agglutination progressif d'agglutination progressive selon qu'on accorde avec phénomène ou agglutination, hein, et bien et qui conduit à agglutiner les mots, à enlever le trait d'union. C'est pas très important ça. Mmh. C'est bon. Ce qui est important, c'est de dire que dans cette réforme, il n'y a que à peine 3% des mots qui sont concernés. 97% des mots ne changent pas. Réforme qui n'en est pas une, puisque ce sont simplement des recommandations. Et l'Académie française insiste bien et dit nous considérons que ce sont des recommandations et qu'il faudra attendre que l'usage ait adopté ces recommandations pour décider que le mot s'écrirait autrement. Mais non, pour l'instant, c'est bon, c'est un peu oublié tout ça. Bon.
Alors merci Christine. Vous aussi, vous pouvez réagir sur la langue française. Est-elle maltraitée ou pas? Est-ce normal qu'elle évolue avec des mots nouveaux? Là aussi, on reviendra sur ce sujet. 3921 europe1.fr ou hashtag AlloE1 pour vos questions, pour vos témoignages et réactions. À suivre la dictée d'Elisabeth Assayag. Ouh là là, j'espère que vous êtes prêts, Jean-Joseph Julot, et vous aussi à la maison.
Allo Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allo Elena.
Elena Morna.
Pensez-vous que la langue française est en danger? Qu'est-ce qui lui fait du tort? Comment la rendre accessible à tous sans l'abîmer? 3921 europe1.fr, hashtag AlloE1 pour vos questions, vos réactions tout de suite. Elisabeth Assayag enfile son tablier d'institutrice.
Allo Europe 1. Ça va vous aider.
Alors Elisabeth, vous avez décidé de tester notre grammaire, notre orthographe. Jean-Joseph Julot et moi, on est prêts. J'espère que vous aussi à la maison.
Oui, parce que plus les années passent et moins nous sommes bons en orthographe. Hein. Il suffit d'aller faire un tour sur les textos de nos adolescents. Mmh. C'est parfois illisible. Pourtant, c'est un critère de sélection quand on cherche du travail ou une formation. Alors, je vais vérifier un petit peu avec vous. Vous êtes prêts?
Oui. Vous êtes prêts, Jean-Joseph?
Oui, okay, on y va. Dit-on par contre?
Alors, tout à l'heure, on a dit que non. Et il y a Caroline sur le hashtag AlloE1 qui nous dit qu'on peut le dire, que c'est pas que en revanche, on pourrait dire par contre, donc je ne sais plus, je suis perdue.
Alors ce n'est pas incorrect, mais c'est souvent mal employé et il est vrai que c'est beaucoup mieux d'utiliser à la place en revanche.
Oui, André Gide s'est penché sur la question, puisque là, c'est cette petite guéguerre autour de « par contre » et « en revanche » qui, répétons-le, sont tout à fait correctes. Eh bien, il a dit « oui, peut-être qu'il faut dire « par contre » ou « en revanche », mais enfin, si pour le mot « en revanche », j'ai des doutes. Il a dit, par exemple, cette femme a vu son mari revenir de la guerre, en revanche, ses trois fils ont été tués. Mmh. Donc ça, c'est quand même de mauvais goût. Hein. Mmh. Il donnait un exemple de mauvais goût, mais ça démontre quand même que entre « en revanche » et par contre, il y a une nuance, subtilité. C'est qu'on ne doit pas dire toujours en revanche au lieu de par contre.
Évidemment. Quand dit-on ceci ou cela?
Ceci quand c'est proche, cela quand ils sont plus loin.
Bravo.
J'ai bon?
Bravo Elena.
Si bien qu'on doit dire, on ne doit pas dire ceci dit, mais cela dit.
Cela dit.
Ouais. Cela dit, puisqu'on vient de le dire. Et je vais vous dire ceci parce qu'on annonce ce qu'on va dire.
Très bien. On a 4 semaines du premier tour de là ou les. Présidentielle.
La présidentielle.
De l'élection présidentielle, donc par métonymie, on va enlever le mot élection. Oui.
Donc de la présidentielle, oui, tout à fait. Quand dit-on seconde ou deuxième?
Seconde, c'est quand il n'y a rien derrière. Deuxième, c'est quand il y a un troisième.
Mais dites-vous, Elena, vous êtes très très forte aujourd'hui.
Vous entrez en seconde.
Mais tous les jours, je fais une erreur. J'annonce le chiffre du jour et bien souvent, c'est un nombre. Un chiffre, c'est quand il n'y en a qu'un. Un nombre, c'est dès lors qu'il y en a plusieurs.
Voilà. Et enfin, dit-on un espèce ou une espèce?
C'est pour moi, c'est une espèce. Hein. Mais alors là aussi.
Oui, le mot espèce est féminin. Mais vous savez, dans les ouvrages spécialisés idées, on relève des occurrences de bons écrivains au 19e siècle qui ont dit un espèce de parce qu'ils considéraient que le mot qui venait après espèce était celui qui était le plus important. Continuons à dire une espèce, le mot espèce est au féminin, et puis voilà.
C'est comme si on dit pas un sorte de chien.
Oui, exactement.
Voilà, bon, sort, bah voilà. Et enfin, une des plus grosses lacunes, c'est le verbe avérer. Savez-vous comment on utilise ce verbe?
Allez-y, Jean-Joseph.
Oui, on ne veut pas dire que ça s'est avéré vrai.
Parce que bah non, c'est avéré, c'est vrai.
Mais c'est l'erreur majeure. Ça revient systématiquement.
Oui,
ça
mais c'est vrai.
Mais c'est comme au jour d'aujourd'hui.
Ça, c'est un pléonasme. Si vous voulez utiliser le vrai, dans ce cas-là, vous dites ça s'est révélé vrai.
Voilà,
mais pas avéré.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a aussi, je vous ai apporté des petites phrases simples à apprendre par cœur. Très efficaces quand vous rédigez une lettre. Par exemple, le verbe nourrir prend 2 R. Et pour vous en souvenir,
parce qu'on a très faim.
Parce qu'on se nourrit plusieurs fois, tout à fait. Ou un ballet de danse, et bien ça prend 2 L parce qu'on danse sur ses 2 jambes, très bien. Et toujours prend toujours
un S.
Mais très bien,
comme
dit,
jamais.
Mais Elena, franchement, vous aviez 20 sur 20 en orthographe.
Non, mais c'est parce que j'ai un peu révisé. Non, mais c'est vrai que j'aime bien aussi l'orthographe. J'aime bien. Mais je fais beaucoup de fautes aussi, hein.
Pour les 2 L, il y a quand même quelque chose, un mot aussi qui revient souvent avec une petite erreur, c'est le mot balade. Je vais faire une balade.
Avec
ça
un
ne
seul
prend
aile,
qu'un seul aile.
Une
et la
chanson.
Balade, la chanson ou la poésie, ça prend 2 L.
Et voilà. Pourquoi courir alors? Parce que c'est difficile quand j'expliquais à ma fille courir. J'avais dit pour nourrir, on se nourrit plusieurs fois. Ouais. Courir n'a qu'un R. Pourtant, on a bien 2 jambes.
Quand on dit je courrai au futur, ça prend 2 L.
2 R. Bah oui, ça c'est
pour ça qu'il vaut mieux apprendre par cœur. Vous n'êtes pas d'accord?
Exactement.
Il vaut mieux apprendre par cœur. Et c'est d'ailleurs un très bon moyen pour les jeunes enfants d'apprendre l'alphabet. Tiens, en écoutant ça.
Apprends l'alphabet en chantant, apprends l'alphabet en riant, apprends l'alphabet en jouant, pour qu'un jour tu deviennes le plus grand. A, B, C, D, E, F, G.
Et c'est comme ça qu'on va apprendre.
Bon, j'ai droit à une image, un bon point. On a droit à quoi avec Jean-Joseph?
Vous avez droit chacun à une image, j'ai le droit de revenir.
Merci maîtresse.
Allô, Europe 1.
39-21.
Martine de Verrières est avec nous au 39-21. Bonjour Martine.
Bonjour à tous.
Alors j'ai Verrières le but, j'ai pas la fin. C'est quoi après?
Le buisson.
Alors vous êtes enseignante, vous nous dites que vous êtes en fin de carrière et énervée par tous les changements successifs. On parlait de la réforme qui date de 90 mais qui n'en est pas vraiment une. Qu'est-ce qui vous énerve exactement Martine?
Ce qui m'énerve exactement, c'est que je suis en fin de carrière et je suis enseignante en principe dans des classes, dans des grandes classes, des CM2, donc des enfants qui vont aller en 6e, et je suis complètement estomaquée à chaque fois que je constate qu'en début d'année, que j'ai au moins 5 ou 6 élèves qui ne savent pas lire, qui ne savent pas orthographier, mais qui ne savent même plus écrire. Et ça me pose vraiment des problèmes, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui, sur le plan graphique, sont même perdus. Et donc je me demande comment ils ont pu, du CP jusqu'au CM1, pouvoir se traîner d'année en année comme ça, avec des lacunes, avec des incohérences, avec vraiment des lacunes profondes et qui font que certains enfants sont obligés d'être en urgence pris par des réseaux d'aide et des parents qui sont complètement affolés de voir que les enfants sont perdus de cette façon, c'est tout à fait anormal. Et je pense que si notre système était beaucoup plus rigoureux et en même temps beaucoup plus simple, on s'adresse quand même à des enfants, je pense que ça ce serait quelque chose qui ne perdurerait pas. Or, actuellement, on est en train de faire un espèce de
tri. Une espèce, Martine.
Une espèce de tri qui fait que... Oui, mais j'ai pas tellement envie de rire, parce que franchement, quand vous avez dans 30... Si vous avez une classe de 30 élèves et qu'il y en a à peu près 10 qui sont capables d'aller en 6e, je vous assure que par moment, dès le mois de septembre, vous ne savez plus comment organiser votre classe et vous ne savez pas comment faire en sorte que les enfants qui sont en grande difficulté puissent vraiment s'en sortir.
J'entends votre colère.
Envie que des enfants qui arrivent en sixième n'aient pas cet obstacle de la lecture, n'aient pas cet obstacle de l'écriture. C'est au moins le moindre service que puisse rendre l'enseignement public à ces enfants de se dire qu'on va au moins pouvoir leur donner ces bases, les bases essentielles.
Eh bien, on entend votre colère, je vous remercie de la partager. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, rebattre les oreilles de nos enfants. Effectivement, la mémorisation par le par cœur, ça n'est pas complètement stupide. C'est ce qu'on disait exactement avec Elisabeth Assayag. Alors, je voulais qu'on reparle d'une autre question. C'est Caroline sur le hashtag AlloE1 qui nous parle beaucoup des correcteurs d'orthographe et des langages SMS. Est-ce qu'ils font partie des éléments qui vont abîmer cette langue française ou au contraire les mots qui viennent de l'étranger. Par exemple, le mot kiff qui est entré récemment dans le dictionnaire, il y a eu 1 ou 2 ans, je crois. Ils font évoluer cette langue. Si elle n'évoluait pas avec des nouveaux mots, ce serait une langue morte.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on dit la langue française doit évoluer. On nous dit on va modifier l'orthographe pour la faire évoluer. C'est faux. Et étant donné que depuis 1990, un phénomène qui nous concerne tous les jours est arrivé, c'est Internet. Essayez donc de mettre une adresse en oubliant un point sur Internet. La machine a intégré une orthographe standard en français. Et on s'expose à des déconvenues, à des surprises si on fait des erreurs en orthographe. En revanche, vous le disiez, eh bien, il y a des mots qui viennent de toutes les parties du monde, qui s'installent dans la langue française. Nous les acceptons, c'est ainsi qu'elle progresse. Elle a intégré le vocabulaire de l'informatique. Elle intègre beaucoup de mots nouveaux. La langue française, c'est une langue vivante. Et les correcteurs d'orthographe, effectivement, il faut toujours être là pour. Il faut toujours être vigilant parce que quelquefois, on va vous mettre une orthographe qui ne convient pas.
Et qui peut changer le mot de la phrase.
Oui, donc il faut être le maître, rester le maître. Voilà.
Alors, comment nous réconcilier avec la grammaire et l'orthographe? Je vous remercie, hein, Martine, encore une fois, d'avoir partagé votre colère. Que pensez-vous des réformes visant à les simplifier? 3921repin.fr pour vos questions et vos réactions. À tout de suite.
Allô, Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allô, Elena?
Elena Morna.
Je disais colombien, mais en fait, c'est espagnol. L'accent. C'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Nous célébrons cette langue française qui évolue, qui s'enrichit. Par combien de personnes elle est parlée dans le monde? Où elle se situe, le rang de la langue française, justement, Jean-Joseph Julot?
C'est un nombre qui va peut-être surprendre. 274 millions de francophones dans le monde. C'est énorme. Cette langue, la langue française, eh bien, c'est la deuxième langue apprise comme langue étrangère dans le monde. C'est la quatrième langue sur Internet, c'est la deuxième langue des affaires en Europe, c'est la troisième langue des affaires dans le monde. Bref, la langue française est très bien implantée.
Elle existe. Et vous le disiez, pour la sauver, en fait, on n'empêchera pas l'anglais, par exemple, de devenir une langue universelle. Il faut que nos enfants français parlent anglais. En revanche, on peut effectivement maîtriser cette langue française, s'obliger à la parler et éviter les anglicismes qui énervaient tout à l'heure nos auditrices, comme le font effectivement les Québécois. Allez, je voulais maintenant qu'on redonne la parole à nos auditeurs qui nous attendent au 3921, le standard d'Europe 1. Claude est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour Elena.
Vous aviez une question à poser à Jean-Joseph Julot.
Oui, c'est très simple. Je n'ai pas de problème généralement pour doubler les S, les M. Je connais les règles, ou ça s'entend, les L. Mais pour doubler les N, j'ai souvent des problèmes. Énergie, par exemple, prend un seul N et ennemi en prend deux. Et souvent, j'ai ce souci de me dire, mais tel mot, y a-t-il un N ou deux N? Existe-t-il une règle pour...
Alors, est-ce qu'il y a une règle pour les N doublés?
La seule règle qui existe, c'est d'apprendre par cœur le mot. Je vais vous donner quand même un moyen de découvrir pourquoi il y a ces deux N ou bien il n'y a qu'un seul N. Vous prenez le mot, vous poussez sa porte et vous découvrez une perspective étymologique qui va vous reconduire à ses origines. Il va vous raconter son histoire, le mot. Il va vous dire, voilà, au 19e siècle, je m'écrivais comme ça. Et puis, je viens d'un mot qui est apparu peut-être au 9e ou 10e siècle. Et là, vous allez refaire toute son histoire. Et vous allez comprendre pourquoi il prend deux N, ou pourquoi il n'en prend qu'un.
C'est la même chose pour les accents circonflexes. Si on remonte à l'étymologie du mot qui s'écrivait parfois SF.
Oui, le S était tout simplement, en ancien français, l'indication nécessaire pour qu'on prononce ça. Vous voyez, un subjonctif imparfait. Et bien, on a transformé ça pour des questions d'économie, d'emploi des caractères au 18e siècle en accent circonflexe. Quand même un petit truc. Vous savez, pour les adverbes, violent, violemment.
Oui, hein, alors avec violent. Quand ça devient deux M, quand le E se transforme en A, c'est compliqué.
V-I-O-L-E-N-T. Vous conservez le E, Vous transformez le N en M, le T en M, ça vous donne violemment.
Ouais.
Et alors que vous auriez tendance à mettre un A pour faire le son A, mais non, faut laisser le E. Élégant, élégamment, élégant, ouais. G-A-N-T, donc A-2-M-E-N-T. Ouais. Il faut conserver la lettre de l'adjectif et vous mettez 2-M. Vous avez des petits trucs très simples comme ça, madame, si vous écoutez encore, vous pouvez vous en servir.
Et comme fatigant, je me suis fait piéger ce week-end par ma fille qui me dit fatigant, maman, ça s'écrit avec U-A-N-T à la fin. Non, je lui dis, il n'y a pas le GA, ça fait GA. Eh ben non, fatigant UNT, c'est effectivement le participe présent. Fatigant GANT, c'est l'adjectif.
Oui, l'adjectif verbal et, le participe présent. Vous savez, deux orthographes. Fatigant ses parents, cet enfant sera privé de dessert. Fatigant GUANT ou cet enfant est fatigant GANT.
Il va falloir revenir parce qu'on a encore beaucoup de questions sur le 39-21. Un après-midi, une après-midi.
Alors, on dit un après et un midi, donc ça fait un après-midi. Cependant, Stendhal, Victor Hugo et puis Alexandre Dumas ont utilisé une après-midi. Voilà, donc ils sont de bons écrivains.
Ce qu'il y a, c'est qu'on peut vraiment l'enrichir et la faire évoluer. C'est ce que je retiens de cette émission par rapport à la langue française. Jean-Joseph Julot, on vous donne rendez-vous le 25 mars au Salon du Livre de Paris pour une dictée avec des personnalités qui viendront jouer le jeu et des anonymes. Tout le monde peut s'y rendre. Je vous remercie. Je répète le titre de votre cahier fort instructif avec des astuces, avec des explications, les fameuses étymologies aussi des mots, le cahier du dictée pour les nuls. C'est paru chez First. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Allô Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allô Elena.
Elena Morna.
Et on retrouve Roland Pérez pour le répondeur juridique le 39-21.
Allô Roland.
Oui Roland, j'ai une question.
Allô Roland.
Bonjour Roland, je vous appelle de Paris. J'ai une petite question juridique. Voilà, j'entreposais des meubles chez un ami et je souhaite les récupérer. Sauf qu'il ne veut pas que je vienne les chercher. Donc du coup, je voulais savoir si juridiquement je pouvais faire quelque chose pour pouvoir récupérer mes meubles qui n'ont jamais été donnés, mais simplement entreposés chez lui. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.
Alors c'est un petit malin, hein, votre ami, parce qu'en fait, il doit connaître l'adage qui est d'ailleurs dans le Code civil, qui dit « en fait de meubles, possession vaut titre », c'est-à-dire que le fait de posséder un bien laisse présumer pour son détenteur qu'il en est propriétaire. Mais, heureusement, pour vous, il faut encore qu'il en soit propriétaire, enfin détenteur de bonne foi. Or, manifestement, il est possesseur de mauvaise foi. Donc il va falloir vous armer un peu de patience, de preuves pour apporter justement la preuve que vous lui aviez simplement donné à garder. Donc ça, des attestations de témoignage sont les bienvenues. Et là, il sera considéré comme de mauvaise foi et vous pourrez récupérer vos meubles.
Une autre question, 39-21.
Bonjour, je m'appelle Raphaël. Alors moi, je voudrais savoir si c'est possible de demander directement à mon patron d'être franchisé en sachant que je suis actuellement salarié. Voilà, c'est tout ce que je voulais demander. Bonne émission, au revoir.
C'est l'émission de vendredi. Oui, ouais. Bah vous allez passer de salarié à entrepreneur, voire peut-être que vous allez constituer une société. Il faut juste que votre employeur soit d'accord, que le concept qu'il a mis au point pour lequel vous travaillez puisse être franchisable, on va dire, qu'il y ait bien un savoir-faire, une enseigne, de la communication, que vous ayez, vous, un peu d'argent, et pourquoi pas.
Allez, une autre question au 39-21.
Oui, bonjour. Je suis assez embêtée parce que mon voisin n'arrête pas de se garer devant chez moi. J'ai même mis un panneau pour qu'il arrête de se garer, mais rien n'y fait. Donc, je ne sais pas comment je pourrais faire. Est-ce que vous pourriez me donner des petits conseils pour qu'il arrête enfin de se garer devant chez moi? Merci, au revoir, bonne émission.
Alors, si toutes les tentatives amiables ont échoué, lettre recommandée éventuellement, vous pouvez saisir la police municipale qui va peut-être lui dresser déjà un PV pour stationnement gênant. Il va en avoir pour 150 euros. S'il continue, il va falloir que vous constituiez ce qu'on appelle un dossier de preuve avec des témoignages, des photos, voire même un constat d'huissier et saisir ensuite le juge de proximité pour trouble anormal de voisinage. Vous pouvez aller sur litige.fr, ils vont lui envoyer une lettre de mise en demeure et ça va vous coûter 0 euros pour vous. Voilà.
Merci beaucoup. Roland, à suivre le jeu, attention, sur Europe 1, puis les infos de 11h et l'actu santé du jour. Nous parlerons d'allergie au pollen et d'asthme, mais aussi d'un bébé sauvé grâce à une photo sur internet. Notre dossier santé est consacré à vos dents, comment les remplacer sans se ruiner. Couronne, implant, bridge, vous saurez tout. J'attends vos questions au 39-21, tout de suite.
Allô,
allô Europe 1. Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Il y a une question que j'aimerais poser.
Allô,
allô Europe 1.
Allô Elena.
Elena Morin.
Allô, Europe 1, la suite pour vous aider à retrouver votre plus beau sourire. Alors comment sourire à pleines dents? Comment remplacer celles qui sont cassées ou manquantes? Au-delà de l'aspect esthétique, une dent manquante non remplacée, c'est un risque pour la santé. Quel risque? Eh bien, je pose la question au docteur Gérald Kirzek, votre médecin sur Europe 1. Bonjour, docteur.
Bonjour, Léna, bonjour à tous. Et puis surtout à mon confrère dentiste, puisque les spécialistes des dents. Bien sûr, les spécialistes des dents, ce sont bien sûr les chirurgiens dentistes.
Mais alors, pourquoi c'est important, au-delà de l'esthétique, de remplacer ses dents?
De remplacer les dents et de prendre soin, j'irais même très en amont, de prendre soin de ses dents. Juste un exemple, les sportifs de haut niveau, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont voir le dentiste parce que c'est fondamental d'avoir une belle et une bonne dentition, parce que ça peut être des foyers infectieux, des nids à bactéries, et ça a des répercussions sur l'ensemble de l'organisme. Et puis on imagine bien, quand on a une dent qui est un peu cassée ou qui est en train de s'effriter, et bien les conséquences, pas seulement esthétiques, mais les conséquences tout court sur la mastication. Bref, la dentition, c'est vraiment fondamental pour la vie.
Remplacer une dent, implant, couronne, bridge, prothèse, quelle solution sans se ruiner? 3921 europe1.fr pour vos questions. Tout de suite, l'actu santé du jour avec Isabelle Quenin.
Allô Europe 1.
Oui, bonjour.
10h midi.
Allô Elena.
Elena Morna.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Elena, bonjour à tous.
Alors on commence par une alerte concernant les allergies, gros danger.
Alors les allergies au pollen, Elena, ne sont pas à prendre à la légère. Alerte relayée par le Figaro ce matin qui nous explique que tout commence par une banale allergie. On mouche, on pleure, on connaît bien tous les symptômes, sauf que de plus en plus souvent, cette allergie risque de se transformer en asthme, et ce dans les 10 ans. À moyen terme, un vrai risque donc. Sauf que les Français ne consultent pas spontanément pour une allergie. Ils oscillent entre résignation, fatalisme ou négligence. C'est pas grave. Chaque année à cette période, j'ai le nez qui coule, ça va passer. Bref, seulement 4 sur 10 vont consulter. Pourtant, il y a des traitements qui permettraient d'éviter cette évolution vers l'asthme. C'est ce que m'a expliqué ce matin le docteur Pierrick Hordé, allergologue et directeur éditorial de Particulier Santé.
Il ne faut pas être négligent quand on a une allergie au pollen, parce que cette allergie au pollen, dans plus de 50% des cas, va évoluer vers un asthme. C'est-à-dire qu'au début, les patients ont une rhinite, éternuent, et puis saison après saison, une toux risque d'apparaître, une toux qui signifie que l'asthme est présent. Dans ce cas, il faut déjà traiter la rhinite. Il existe de nombreux médicaments, des antihistaminiques, des traitements pour le nez, pour les yeux, et puis pour l'asthme, il y a ce qu'on appelle les bronchodilatateurs, les médicaments qui vont soulager pendant quelques heures une toux, un épisode d'asthme, et ça peut se prendre quelques jours ou quelques fois dans la journée. Et puis, il y a des traitements de fond pour l'asthme, quand cette toux et cet asthme persistent plusieurs semaines, et qu'il faut prendre tous les jours pendant 3-4 semaines, voire 2 mois.
Et alors là, attention, il faut prendre son traitement régulièrement, et là non plus, c'est pas gagné, car selon l'assurance maladie, un asthmatique sur 2 ne prend pas correctement son traitement de fond.
Gérald ?
C'est fondamental de bien penser que ça va crescendo une allergie. On est d'abord une petite allergie des symptômes locaux, puis régionaux, c'est ORL, et puis ça va descendre entre guillemets sur les poumons avec ces espèces de sifflements, cette crise d'asthme. Et le pire du pire, c'est d'aller quasiment s'auto-médiquer avec, ouais, vous savez, la Ventoline ou les pchipchites. On dit allez, ça lève la crise, ça passe. Ben non, ça passe pas. Donc il faut vraiment consulter son médecin généraliste et un pneumologue derrière pour faire des épreuves fonctionnelles respiratoires et diagnostiquer.
En Angleterre, un bébé, Isabelle, sauvé par une photo.
C'est une histoire incroyable. Jackson est un adorable bébé anglais et ses parents, comme tous les parents, en sont complètement fous. Et le mitraille de photos, bien sûr, sauf que le papa de Jackson, il est étudiant en médecine, et qu'en faisant défiler les photos comme ça, il a un mauvais pressentiment. Ah. C'est quoi cette tache blanche dans l'œil droit du bébé qui apparaît sur les photos mais qu'on ne voit absolument pas au naturel? Alors il décide de poster la photo de Jackson sur les réseaux sociaux en expliquant son inquiétude. Cette initiative a probablement sauvé la vie du bébé. Car les ophtalmos qui ont vu passer le cliché ont immédiatement réagi et conseillé aux parents de consulter. Et là, le diagnostic a été immédiat, un rétinoblastome, une tumeur de la rétine qui a été décelée grâce à la photo, et Dieu merci, précocement. Ce qui fait que son évolution a été stoppée. Ouf!
Oui,
c'est un cancer, de la rétine. Oui, c'est incroyable, mais c'est assez connu comme méthode de dépistage, puisque ça se dépiste avec des photos avec flash, puisque ça permet de voir à l'arrière de l'œil, puisque c'est un cancer de la rétine, donc de l'arrière de l'œil.
Ah, incroyable. Donc il faut prendre des photos de nos bébés, ou effectivement de nous-mêmes, et observer peut-être ce petit point blanc.
Faut prendre des photos, mais pas que pour ça. Faut surtout prendre des photos pour se faire plaisir et les garder en souvenir.
Alors le chiffre du jour, c'est 400 000. C'est un gros nombre quand même, hein, Isabelle.
C'est un chiffre donné par Le Parisien ce matin. 400 000 femmes atteignent chaque année le stade de la ménopause en France. Ouais. Bouffée de chaleur, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, rien que du plaisir. Sauf que rien n'est désormais inéluctable. Selon Le Parisien, il faut juste juste en parler.
Et on reviendra, nous, on en parlera ensemble au cours d'une prochaine émission. On vous retrouve tout à l'heure, Isabelle, pour parler des soins dentaires moins chers à l'étranger. Quels sont les bénéfices et les risques? Tout de suite, on parle des soins pratiqués en France. Couronne, prothèse, bridge, implant. Quelle est la solution qui vous convient? 3921-europe1.fr pour vos questions.
Allô Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allô Elena?
Elena Morna.
Remplacer une dent, quelles sont les solutions sans se ruiner? 3921-europe1.fr pour vos questions. Docteur Gérald Kirzek, votre médecin sur Europe 1, et docteur David Gutmann, chirurgien dentiste, vous conseille en direct. Bonjour docteur Gutmann.
Bonjour Elena, bonjour.
On commence par le béaba. Qui sont les ennemis qui font tomber nos dents?
Ou plutôt, quel est déjà le premier ennemi qui fait tomber nos dents? C'est évidemment le sucre.
Voilà, les caries qui attaquent.
Voilà, il faut déjà savoir que ce n'est pas le sucre en lui-même qui est nocif pour les dents. Quand on ingère des aliments, par exemple on mange des sucreries, le sucre va donc aller dans la bouche, va être digéré, va être ingéré par des bactéries. Ces bactéries vont libérer un certain acide. Et c'est cet acide-là qui va se déposer sur les dents et qui va entraîner des caries. Donc effectivement, ce n'est pas le sucre en lui-même, mais plus on évite le sucre, plus on évitera l'acide et plus on évitera les caries.
Dans les autres ennemis, on trouve bien sûr les chocs qui font casser les dents tomber les dents. Voilà,
le tabac,
oui, le tabac. Il faut qu'ils le disent tous les jours.
Mais tant qu'elle n'a pas arrêté de fumer, Elena, et tant que les auditeurs n'ont pas tous arrêté de fumer, il faudra le rappeler.
Effectivement, sauf que le tabac, la nicotine, ce n'est pas la dent en elle-même, c'est ce qu'on appelle la gencive, c'est le parodonte. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est fondation de la dent. Et effectivement, la nicotine entraîne beaucoup de déchaussement dentaire. Et donc
le déchaussement aussi, ça en fait partie, justement.
Bien sûr, la nicotine entraîne des déchaussements dentaires. Donc la perte d'une dent à terme, bien sûr.
Alors quand on a une dent cassée ou une dent manquante, quelle est la solution? On commence par la dent cassée de Corinne sur europe1.fr qui nous dit: est-ce qu'un sur une dent cassée est plus approprié qu'une courante? C'est quoi un inlay?
C'est une très bonne question. Alors un inlay, il y a dent cassée et dent cassée. Un inlay, en gros, c'est comme un plombage, comme un amalgame, sauf que c'est en céramique, c'est en porcelaine, c'est la même matière qu'une couronne et c'est beaucoup plus solide qu'un amalgame. Donc en gros, quand on a une grosse carie, quand la dent est vraiment cassée de façon importante, oui, l'inlay est beaucoup plus préférable qu'un simple amalgame.
Et l'avantage, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher qu'une couronne. J'ai vu entre 200 et 500 euros.
Oui, sauf que c'est deux choses différentes.
Alors,
une couronne, on va dire qu'on met une couronne vraiment quand la dent est très abîmée. Un inlay, quand la dent est moyennement abîmée. Donc c'est deux choses différentes. Il y a des degrés de fracture. L'inlay ne remplace pas une couronne.
Gérald.
Et donc on va en profiter sur ces fractures de dents ou sur ces dents suite à un choc qui vont parfois tomber. Alors soit de manière, c'est une fracture, c'est un morceau de dent, soit c'est carrément la dent. Le bon réflexe, c'est de la garder en bouche, cette dent, et d'aller consulter un chirurgien dentiste. On avait parlé dans cette émission de petits kits pour recoller soi-même, etc. Il faut oublier. On garde en bouche, on met dans du sérum physiologique et on va consulter son chirurgien dentiste parce qu'il y a des possibilités de récupération et là de recoller cette dent de manière professionnelle.
Oui. Bon, Nicole a une question à vous poser au 3921. Nicole de Limoges. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour.
Alors vous aviez une question concernant deux implants qu'on vous a posés en 2012.
Voilà, 2012, deux implants sur 26 et 27. Et depuis, j'ai toujours eu mal. Donc j'ai revu le
chirurgien.
Le chirurgien. Donc je l'ai rappelé. Dès que ça a été fait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Il n'a jamais voulu m'écouter. Donc je lui ai demandé de les enlever. Il m'a dit que ça ne s'enlevait pas. Alors, il a pensé que ça venait de la dent 24 qui m'a fait dévitaliser pour rien du tout. Et j'ai toujours mal depuis 5 ans. Je l'ai revu l'année dernière. Il m'a fait enlever les prothèses pour voir si ça améliorait. Ça n'a rien changé. Depuis maintenant, je vis sans les prothèses et j'ai toujours la douleur. Et maintenant, évidemment, il me dit qu'on ne peut pas les enlever parce que ça risque bien sûr... Et il y a quand même eu une greffe de sinus sur la 27.
D'accord. Alors, Dr Gutmann va vous répondre, Nicole.
La question déjà, c'est donc, vous avez toujours les implants en bouche actuellement?
Oui.
Et est-ce qu'il a fait une panoramique
Une radio
panoramique. Oui, oui. Il n'y a pas du tout d'infection, tout est bien, mais j'ai comme une gêne, comme si on m'avait enfoncé un pieu dans la bouche, et si on l'enlevait, il me semble que ça me soulagerait.
Eh ben, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'une douleur n'est jamais normale. Même, effectivement, parfois la panoramique, parfois la radio, on voit pas grand-chose. Mais c'est pas parce qu'on voit pas grand-chose que tout va bien. Si vous avez une gêne, si vous avez une douleur, et si vous sentez qu'effectivement la douleur vient des 26-27, le chirurgien doit vous les enlever. Un implant, ça se retire.
C'est un menteur, parce qu'il a dit que ça se retirait pas.
Je dis pas que c'est un menteur. Voilà, mais on dit souvent que les dentistes sont des menteurs,
Des arracheurs de dents.
Comme les arracheurs de dents. Mais c'est pas le cas.
Vous arrachez parfois les dents. Non, mais ce qui est important pour notre auditrice, c'est qu'elle peut très bien prendre, si elle a vu, pour Nicole, si elle a vu son chirurgien dentiste, elle en a discuté, et qu'à un moment donné, il y a le dialogue qui est un peu rompu ou qui veut pas, absolument pas regarder les choses, c'est peut-être de prendre un deuxième avis. Oui, ça peut être un moyen.
Il faut toujours plusieurs avis. Et moi, de toute façon, ce qui est clair, il faut toujours écouter le patient. Ça veut dire que si vous avez mal, c'est que vous sentez quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ne va pas vous dévitaliser le 24, puis la 23, puis la 22, ainsi de suite. Si vous, vous sentez qu'il y a un problème au niveau des 26-27, voyez effectivement un deuxième avis et voyez ce qu'on vous dit.
C'est quoi quand on dévitalise une dent, ça, bah, c'est-à-dire que la dent est morte?
Oui, en gros, une dent, c'est comme un arbre avec la sève. Quand l'arbre est vivant, il y a de la sève, il est vraiment très résistant. Quand une dent est dévitalisée, il n'y a plus de sève, elle est cassante. Et c'est là où il faut mettre une couronne, justement, comme on a parlé tout à l'heure. Et on ne dévitalise pas une dent comme ça. C'est-à-dire qu'une dent dévitalisée est toujours moins résistante, plus fragile qu'une dent vivante. Et il ne faut pas dévitaliser juste pour dire on calme la douleur. Non.
Nicole, un deuxième avis s'impose en ce qui vous concerne. Je vous remercie pour votre appel. Alors, on va parler des autres solutions pour remplacer des dents manquantes et notamment de l'appareil amovible, puisqu'on a quelques questions sur l'appareil amovible. Il n'a plus rien à voir avec les dentiers d'antan. Non, non, il est économique. Il permet d'économiser parfois dans l'attente d'un bridge ou d'un implant, justement. On verra si c'est un bon conseil. C'est le moment de poser vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. Restez bien à l'écoute. Le jeu revient sur Europe 1.
Allô Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allô Elena ?
Elena Morna.
Et nous sommes au téléphone avec Nadine qui nous a contacté au 3921. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour. Bonjour au docteur.
Bonjour. Alors vous avez besoin d'une question, vous avez besoin en fait d'un conseil concernant les implants. Vous devez en faire. On vous a fait un devis quand même à 5 000 €.
Voilà. Alors en fait, moi si vous voulez, c'est pas une dent que j'ai contre mon dentiste. C'est deux, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, je suis allée pour me faire soigner une dent et il m'a dit qu'il manquait de l'os, donc à deux dents. Et bon, c'est tout, après je suis repartie comme ça. Et quelques années après, j'y suis retournée et là, j'y suis allée pour un soin à droite. Il m'a littéralement cogné enfin, la dent. J'avais un plombage entre ces deux dents où il manquait de l'os. Et en fait, il m'a dit comme ça, comme il m'a fait deux détartrages très rapprochés, il m'a dit vous ne tarderez pas à avoir mal. Et effectivement, quelques temps après, j'ai commencé à avoir mal. Et puis, j'ai les dents qui ont commencé à bouger. Et donc, là, j'ai carrément changé de dentiste. Et puis, il m'a dit, écoutez, là, il faut faire des implants. Et là, par contre, j'en ai pour 5 000 € pour deux implants.
Alors, est-ce que 5 000 € c'est le bon prix? Oui, est-ce qu'on peut trouver moins cher?
Non, je suis conscient que 5 000 € était un très gros budget, une énorme somme, mais 5 000 € pour deux implants, ce sont les tarifs. Ce sont les tarifs. 5 000 €, c'est certainement implant plus couronne qui va par-dessus.
Et est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative aux implants, justement? On parlait de l'appareil amovible, est-ce que
non,
ça peut...
Non, mais c'est... Voilà, ouais, bien sûr qu'il y a une alternative qui est l'appareil amovible. Maintenant,
alors, on en parle un peu de l'appareil amovible, parce qu'on va revenir sur les implants pour vous, Nadine. C'est important, ces appareils amovibles, parce qu'ils sont moins chers que tous les autres soins. Moi, j'ai envie de dire quels sont leurs inconvénients. Pour l'instant, je n'ai pas vu. En tous les cas, quand on doit se faire poser des implants comme Nadine, qui peuvent coûter 5 000 €, est-ce que l'appareil amovible, ce n'est pas l'occasion? Parce que ce n'est plus du tout comme les dentiers de nos grands-parents,
si,
là.
Si.
Ils sont beaucoup mieux aujourd'hui.
Non, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez en bouche? Non. Je peux vous dire réellement, avoir un dentier ou un appareil amovible, quelque chose qui bouge en bouche, c'est très désagréable. Ça a bien évolué, mais c'est quand même très désagréable.
Bien sûr. Et pour deux dents, vous rendez compte? C'est-à-dire que ça met tout un dentier juste pour deux petites dents. Par contre, il y a une alternative, c'est le bridge qui peut être moins cher que l'implant. Mais le bridge, ça veut dire quoi? Bridge, ça veut dire pont en anglais. Ça veut dire qu'il faut que ça puisse s'appuyer sur deux piliers, c'est-à-dire sur deux dents qui sont saines autour. Donc, c'est pas le cas pour tous les patients. Donc, il y a le bridge. Si le bridge n'est pas possible, il reste l'implant. L'implant, c'est quoi? C'est une tige qui est mise dans l'os.
C'est une vis qu'on met dans l'os.
C'est une vis qui va permettre ensuite de fixer une dent. L'implant, c'est pas la dent. L'implant, c'est la tige qu'on va mettre dans l'os. Et sur cette tige va être branchée une couronne qui est la dent.
Le souci du bridge aussi, si il y a une alternative qui est le bridge, c'est que le bridge, il faut quand même abîmer les deux dents de chaque côté.
Il faut dévitaliser deux dents, en fait.
Dévitaliser,
les dents
pas
piliers.
Toujours, mais en tout cas, il faut toucher quand même assez de dents. Et c'est dommage d'abîmer des dents si c'est pas nécessaire. Donc, l'implant reste la meilleure solution, mais qui est un peu onéreuse.
En fait, le bridge, ça va coûter à Nadine, si elle le choisit, entre 300 et 1 500 € selon la composition.
Non, c'est-à-dire que le bridge, vous parlez du bridge.
Oui, du bridge.
Oui, c'est ça, le bridge coûtera moins cher certainement que les implants. Le bridge, si c'est dedans, le bridge peut coûter 2 000 €, 2 000-2 500 €. Après, tout dépend s'il est fait en métal, en porcelaine. Voilà, il y a plusieurs
Pourquoi
matériaux.
C'est si cher l'implant? C'est la technique chirurgicale.
Bien sûr. C'est-à-dire que le matériau en lui-même, l'implant, c'est pas du fer, hein, c'est du titane. C'est quelque chose qui vaut très cher pour le praticien. Et effectivement, malheureusement, ça revient cher pour le patient. Malheureusement aussi, surtout, c'est très très peu remboursé. C'est-à-dire que la sécurité sociale rembourse très peu sur un implant. Et je crois pas grand-chose, voire rien du tout, sur une couronne, sur un plan. Le problème, il est là.
Pour revenir à l'appareil amovible que visiblement vous n'aimez pas, oui, ça doit être désirable. Pour dedans, non, peut-être pas pour Nadine, mais pour ceux qu'on en ont plusieurs à remplacer. Moi, j'ai une question. D'abord, les inconvénients, s'il y en a, c'est par exemple, il faut quand même brosser l'appareil 3 fois par jour.
Oui. Ouais. Non,
mais là, et quand on dort, est-ce qu'on peut dormir avec? Et par exemple, j'imagine la première nuit avec un amoureux, est-ce que ça peut se déboîter?
Bien sûr. Avoir quelque chose qui bouge en bouche, c'est pas super agréable. Bien sûr que ça résout des problèmes, mais moi, j'aurais tendance à dire que l'appareil, c'est bien au niveau provisoire. Ouais. Justement, quand le dentiste.
Permet d'économiser pour Nadine.
Ça permet surtout pour Nadine de faire la phase provisoire. C'est-à-dire que si Nadine, pour l'instant, ne peut pas se permettre de faire des implants, oui, on peut lui faire un appareil dentier. Mais il faut quand même avoir dans l'idée, à terme, qu'elle puisse se mettre quelque chose de fixe. C'est-à-dire ou des implants ou un bridge. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire appareil amovible au lieu de dentier? Parce que moi, dentier, ça me fait du mal.
Disons appareil amovible.
D'accord. Je vous remercie, Nadine, pour votre question. Alors, certains d'entre vous sont sans doute tentés aussi par la pose de prothèse dentaire à l'étranger. Votre belle-sœur l'a fait, par exemple, et ça s'est très bien passé pour elle. Pourquoi pas vous? Quels sont les risques du tourisme dentaire? Les réponses d'Isabelle Quenin. Vos questions au 3921 ou sur europe1.fr.
Allô Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allô Elena?
Elena Morna.
Comment remplacer une ou des dents sans se ruiner? Quelles sont les nouvelles techniques? Les réponses des docteurs Gérald Kirzek, votre médecin sur Europe 1, et David Gutmann, chirurgien dentiste. Vos questions au 3921. Isabelle Quenin nous rejoint pour parler des soins à bas coût à l'étranger.
Allô Europe 1.
Ça va vous aider.
Alors Isabelle, c'est vrai que la tentation d'aller à l'étranger, je pense beaucoup les destinations comme la Roumanie, la République tchèque, voire aussi le Maroc, pour se soigner moins cher, les soins dentaires moins chers, quels sont les bénéfices, quels sont les risques?
Alors c'est très tentant et c'est vrai que c'est très bien fait. Il y a tout un côté commercial, marketing, publicité. On va vous aider à organiser votre séjour dentaire. On parle plus de tourisme dentaire, on dit que vous allez faire un séjour dentaire qui va harmonieusement cumuler le côté dentiste, soins qui fait mal parfois. Et puis le côté touristique, le Danube, tout ça, vous allez vous balader. Bref, c'est assez extraordinaire et on est prêt à tout pour vous inciter à aller vous faire soigner à l'étranger. Par exemple, vous avez une navette qui va vous attendre à l'aéroport, par exemple. On est prêt à partir du moment. Tout commence par une consultation. Donc la consultation tourne autour d'à peu près 40 euros, de 35 à 50 euros. Et à partir du moment où cette consultation, bien sûr, vous n'allez pas vous leurrer, on ne va pas vous dire « ben non, vous êtes venu pour rien », il y aura forcément, on va vous trouver quelque chose à faire. À partir du moment où ces frais dépassent un certain prix, on vous rembourse même votre billet d'avion, dans la limite de 150 euros. Donc déjà, vous vous dites « c'est intéressant d'y aller en Hongrie, parce que en plus, on me rembourse mon billet d'avion, on m'offre une radio panoramique ». Bref, tout ça a l'air assez sérieux, et dans certains cas, ça peut l'être, parce que j'ai consulté tous les forums, il y a des gens effectivement qui ont été soignés à l'étranger et qui sont ravis. Bon, il y en a d'autres pour qui ça s'est un peu mal passé. Mais en tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que ce tourisme dentaire qui était balbutiant il y a encore 10 ans, maintenant est très organisé. Tous les pays s'y mettent. Le champion, le numéro 1, c'est la Hongrie. Vous avez le Maroc et la Tunisie. Alors, c'est pas inintéressant non plus, parce que Maroc et Tunisie, la plupart du temps, les dentistes ont été formés en France. Donc, quelque part, ils ont fait les mêmes études. Vous avez la Croatie, vous avez l'Espagne. Donc, vous avez
Je vais me permettre de vous couper, c'est Evelyne sur le hashtag AlloE1 qui nous dit, il y a 4 ans, nous sommes allés donc avec mon mari à Budapest faire des implants, couronne, bridge, appareil, et nous sommes satisfaits.
Ça peut être une idée de cadeau pour un anniversaire de mariage, s'ils sont partis en couple par exemple. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est suivant le pays, vous allez avoir des économies différentes. Par exemple, ce que l'on disait, Hongrie, c'est Hongrie-Croatie, ce sont eux qui vous permettent de réaliser le plus d'économies. C'est-à-dire que par exemple, on est dans le moitié prix, on est de moins 40 à moins 70%. L'Espagne, plus près de nous, propose du moins 30, moins 40%. Donc, vous choisissez. Mais attention, ça se passe très très bien. Ça s'est passé très bien pour Evelyne. Il y en a d'autres pour qui ça se passe moins bien. Parce qu'il y a l'acte, la prothèse et le suivi. Et la prothèse, par exemple, la couronne, l'implant, il faut savoir ce que l'on va utiliser. Et il faut être sûr, par exemple, que le produit qu'on va vous installer quasiment définitivement dans la bouche correspond bien et bien certifié par des mesures, par des normes européennes.
Et ça, on ne le sait pas ?
Eh bien, si, vous pouvez demander. C'est-à-dire que si vous décidez de faire cette démarche, d'aller à l'étranger, la première des choses, vous allez vérifier que le dentiste qui va travailler sur vous est bien titulaire d'un diplôme. C'est compliqué, ça a l'air tout simple comme ça, vérifier qu'il a un diplôme, bah oui, c'est évident. Sauf que vous allez dans une clinique où il y a parfois 11 à 20 dentistes qui sont en train de travailler. Donc comment savoir s'ils ont tous des diplômes satisfaisants ? Deuxième chose, donc vous allez vous assurer que les prothèses qu'ils utilisent, demandez-leur les marques qu'ils utilisent pour savoir si donc elles sont bien aux normes de la communauté européenne. Demandez également à votre sécu ou à la mutuelle, enfin à la sécu, là, c'est laissez tomber, hein, mais demandez à votre mutuelle s'il y a une prise en charge ou pas.
Ah, c'est
et
possible.
Ça dépend des mutuelles. Il y a des mutuelles qui ont bien compris qu'il fallait s'engouffrer dans la brèche.
Parce qu'il y a
paiement
aussi, un remboursement.
Il faut savoir aussi quid du suivi. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez en France et que ça se passe mal, s'il faut que vous repartiez là-bas, c'est pas évident. Demandez donc, choisissez un organisme qui a des dentistes référents en France. Et puis, en cas d'implant, ce qui est quand même là où il y a la plus forte économie potentielle, vérifiez bien la marque utilisée. Savoir si c'est la même marque. Par exemple, il y a des marques en France, il y a Nobel, Biocar, il y a Brandmark. Bon, ça, ce sont des marques connues. Parce que sans ça, vous allez avoir des dentistes qui vont refuser d'intervenir sur des implants qui ne sont pas de bons implants, qui ne sont pas les implants sur lesquels ils travaillent. C'est un peu comme une marque, hein, une montre. Vous avez une montre de marque, vous allez la faire réparer. À partir du moment où ce n'est pas un réparateur agréé, ben après, plus personne ne vous voudra toucher. Donc là, effectivement, pour votre implant, vérifiez que c'est la bonne marque qui fera qu'en cas de problème, un dentiste français pourra intervenir dessus, pourra la régler.
Alors on va voir effectivement comment ça se passe quand il y a un problème après. Merci beaucoup Isabelle Quenin.
Allô, Europe 1.
39-21.
Et le problème après, c'est Marie-Chantal qui l'a eu, Marie-Chantal d'Arras. Bonjour Marie-Chantal.
Bonjour.
Alors vous avez fait poser un bridge en décembre dernier et là, la céramique s'est déjà cassée ?
Oui, parce que mon dentiste est parti en vacances exceptionnelles pour jusqu'au début avril. Et il m'avait mis un ciment léger, je ne sais pas pourquoi, et mon appareil ressortait. Donc j'étais, mon appareil ne tenait pas exactement, et j'ai été voir son collègue qui m'a remis un ciment, et ça a claqué dans la bouche, donc je sens en plus l'implant. Je voulais savoir ce que j'avais comme recours quand il reviendra, au point de vue... est-ce qu'on le refait ? En plus de ça, ça me fait zozoter ce que je n'avais jamais avant. Oui. Donc, voilà, je voulais savoir si c'est le dentiste qui est responsable du travail.
Voilà. Alors, dans ce cas-là, effectivement, quand avec ce ciment provisoire, comment ça se passe ? Est-ce que c'est normal ? Quels sont les recours pour Marie-Chantal ?
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas normal. Si le bridge a été posé il y a pas longtemps, c'est pas normal. qu'il y ait de la porcelaine qui casse comme ça. Ce qui est sûr, c'est que s'il a cassé, c'est qu'il y a un problème d'adaptation, ce qu'on appelle l'occlusion, c'est-à-dire comment on ferme la bouche. Si l'occlusion est mal réglée, ça veut dire que, il faut savoir que sans s'en rendre compte, on ouvre, on ferme la bouche 4500 fois par jour. Donc si l'occlusion est mal réglée, si le bridge est mal positionné, on va 4500 fois par jour taper mal dessus.
D'accord.
Effectivement,
à force,
ça casse.
Bien
bon, un bridge, ça se répare pas. Ça veut dire que si la porcelaine est cassée, malheureusement, ou heureusement en tout cas peut-être pour vous, il faut tout recommencer.
C'est quand même l'avantage de Marie-Chantal de s'être fait soigner en France avec son chirurgien dentiste qui, bien sûr, va regarder, va faire un état des lieux. Et j'allais dire, ça fait partie du service après-vente.
S'il
y a une casse anormale, bien sûr. Ce qui est un vrai problème quand vous partez, je ne sais où, en Europe ou ailleurs, à l'étranger, parce que vous n'allez pas trouver un chirurgien dentiste, et on les comprend, sauf urgence, qui va aller faire ce service après-vente.
Merci en tout cas, Chantal, pour votre appel. Remplacer une dent, quelle solution ? 3921, europe1.fr pour vos questions. On se retrouve après cette courte pause.
Allô Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allô Elena.
Elena Morna.
Quelle solution pour remplacer une dent manquante ? Chantal nous a contacté au 3921. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez eu un implant sur le devant de la bouche.
Oui,
vous vouliez que la dent d'à côté ait la même couleur, c'est ça ?
Exactement la même couleur.
Et que vous a proposé le dentiste ?
Bah, il m'a proposé de changer les trois autres dents qui sont sur le devant, c'est-à-dire les deux qui se trouvent sur la gauche et une qui se trouve à droite de l'implant. et en attendant mettre des dents provisoires.
D'accord.
Alors ça coûte une fortune. Alors je me demandais moi si j'étais obligée de faire les quatre, enfin les trois qui me
c'est des facettes. Hein. Ce sont des facettes hein, qui vous a proposé de.
Voilà. Oui. Donc moi je.
En fait, Chantal, c'est déjà tout dépend de ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous voulez quoi? Vous voulez juste avoir la dent d'à côté, de l'implant qui est la même couleur.
Exactement la même couleur, la même forme, aussi belle quoi. Bah,
si vous n'en voulez qu'une, le dentiste ne peut en faire qu'une. Voilà.
Il peut en faire qu'une?
Bien sûr qu'il ne peut en faire qu'une, bien sûr.
Alors, pourquoi elle me propose de faire les quatre?
C'est pour une raison d'harmonie esthétique.
Voilà. Oui.
C'est une harmonie esthétique. Donc, il faut en discuter avec lui. Mais les facettes, il faut bien imaginer, Chantal, que c'est des petites facettes qui se collent dent par dent. Donc, il n'y a pas un pack de quatre qui serait absolument indissociable. Si vous voulez les deux dents qui soient symétriques, eh bien, à ce moment-là, il faut simplement faire une facette adaptée qui soit symétrique de votre implant.
Alors, il faut savoir au niveau des facettes, il y a deux types de facettes. Hein. Il y a les facettes traditionnelles où il fallait un petit peu gratter les dents, limer les dents pour poser la facette. Maintenant, il faut savoir qu'il y a les facettes de nouvelle génération, les facettes pelliculaires qui sont juste collées sur les dents sans abîmer les dents, sans toucher les dents. Et c'est peut-être là justement où votre dentiste vous proposera deux choses. Si c'est juste une seule facette que vous souhaitez, il faudra faire une facette traditionnelle, certainement. Si par contre vous voulez refaire un peu votre sourire, peut-être c'est ce que vous a proposé votre dentiste. Là, effectivement, 3, 4, 5 facettes s'imposent. Mais tout dépend de ce que vous souhaitez.
Mais moi, je préfère, pour avoir cette dent qui se trouve juste à côté de cet implant qui est bien plus joli, bien sûr, hein, parce que vu mon âge, les dents sont un peu plus. Elle est un peu plus jaune. Hein, la mienne est plus jaune que celle que l'on m'a posée. Et c'est moi qui l'avais demandé au départ, quand même. Hein,
oui, donc c'est bien pour un souci esthétique. Donc là, c'est à vous de voir si vous, effectivement vous faites une dent ou si vous jouez l'harmonie esthétique sur l'ensemble de ces dents qu'on appelle les dents du sourire. Je vous remercie, Chantal. Je voulais qu'on prenne le temps de parler avec Corinne, qui nous a également contacté au 3921. Bonjour, Corinne.
Bonjour.
Alors vous, c'est votre fille qui a une dent qui est devenue grise hein, suite à un impact. Ça arrive souvent, parfois des années plus tard.
Exactement. Oui.
Et son dentiste l'a blanchie à l'époque. Aujourd'hui, elle souhaite un implant, votre fille.
Alors, voilà. Donc, elle était adolescente et c'est dans une sorte de labyrinthe, une attraction. Bref, elle s'est cognée. Ouais. Et un an après, la dent est devenue grise, on va dire, pas noire.
Ce qui est normal, c'est tout à fait normal.
Voilà. Mon dentiste a injecté un produit de dent deux fois. Ouais, l'a fait faire deux fois.
C'est ce qu'on appelle un blanchiment interne.
Voilà. Et maintenant, bon, c'est pas ridicule parce que la dent n'est pas noire, mais enfin, bon, c'est grisé quand même à la base. Et elle souhaiterait un implant, mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution.
Est-ce qu'une facette, ça pourrait pas plutôt qu'un implant?
Oui, c'est-à-dire que la dent soit noire, c'est un phénomène tout à fait normal. C'est-à-dire que suite à un choc, la dent se dévitalise, se mortifie et devient un petit peu grise, un petit peu noire, mais pas immédiatement. Hein. C'est souvent au bout de plusieurs années. Donc qu'elle soit noire ou un peu grise, c'est normal. Mais c'est pas pour autant pathologique. C'est-à-dire que le dentiste doit prendre une radio. Si au niveau de la radio, de la panoramique, qu'il voit que tout est normal, qu'il n'y a pas d'infection, pas d'abcès, il n'a aucun intérêt à retirer une dent pour mettre un implant. On ne va pas retirer une bonne dent pour mettre une fausse racine à un implant. Donc mon conseil, c'est si la dent est en bonne santé, de mettre une couronne ou une facette absolument par-dessus, sans pour autant enlever la dent.
Et d'arrêter d'enlever des dents en bonne santé, c'est ce qui vous met en colère.
Oui, c'est un traitement esthétique superficiel. L'implant, encore une fois, c'est la racine. Un implant tout seul, il n'y a pas de dent. Il faut mettre quelque chose dessus, c'est-à-dire la couronne. Donc là, autant finalement utiliser la racine naturelle.
Je remercie Corinne pour votre appel. Merci Dr Gutmann, vous avez pris l'émission en cours. Bien, vous retrouvez les infos essentielles sur la page Facebook d'Aller Europe 1. Sinon, il y a le replay sur europe1.fr. À bientôt Dr Gutmann.
Merci beaucoup.
Merci pour votre sourire. Tout de suite, c'est le répondeur santé du docteur Gérald Kirzek.
Allô Europe 1.
J'ai une question à vous poser.
10h midi.
Allô Elena.
Elena Morna.
Vous avez besoin d'un conseil santé? Eh bien, posez vos questions au 3921 sur les répondeurs du docteur Gérald Kirzek. Il vous répond en direct.
Allô docteur.
Bonjour.
Bonjour Gérald.
Bonjour docteur.
Bonjour docteur, je m'appelle Alexandre. J'appelle pour ma femme qui a 30 ans et qui, depuis des années, a des problèmes de thyroïde. Tous les mois, fait une prise de sang pour contrôler l'évolution. Notre médecin essaye de nous réguler le dosage en fait, mais bon, on a l'impression qu'il est un petit peu perdu parce que là maintenant on arrive à avoir des dosages qu'on a déjà eu auparavant. Donc si vous aviez une solution à nous donner, parce que là on sait plus quoi faire. Merci, au revoir.
Alors Alexandre, je comprends votre inquiétude. Alors c'est vrai que le traitement par lévothyrox ou des hormones thyroïdiennes quand on a une hypothyroïdie, bah faut parfois un peu tâtonner parce que c'est très sensible comme dosage. Et donc du coup la TSH, puisque c'est ça la prise de sang qui est faite régulièrement, elle peut varier. Alors pour que ça soit le plus constant possible, il y a quelques règles. D'abord, il faut prendre son médicament tous les jours à la même heure, si possible dès le réveil, à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec les aliments et que ça ne modifie pas l'absorption au niveau du tube digestif et donc l'efficacité. Et puis, il faut prendre toujours le même médicament. C'est un médicament où il y a des génériques, mais d'un générique à un autre, il peut y avoir une différence. Donc, il faut vraiment prendre toujours la même marque. Et puis, il faut éviter certains aliments. Et je pense en particulier au pamplemousse qui peut faire varier là aussi le dosage. Mais la régularité, c'est important. De même qu'il faut faire doser toujours dans le même laboratoire parce qu'ils ont à peu près les mêmes normes.
Une autre question, toujours au 3921.
Bonjour docteur, je suis Philippe d'Angers dans le Maine-et-Loire. Je suis atteint de diverticulose au niveau du côlon sigmoïde. J'aimerais savoir quelles précautions je dois prendre, sur le plan alimentaire notamment. Merci docteur.
Alors Philippe, les diverticules, d'abord qu'est-ce que c'est? J'allais dire c'est un peu l'inverse des polypes. Souvent on parle des polypes qui sont des petites excroissances dans le tube digestif, dans le côlon, et on les voit à la coloscopie. Le diverticule, c'est l'inverse, c'est une petite hernie, c'est un petit sac qui va à l'extérieur et qui peut s'infecter, qui peut devenir inflammatoire, et c'est ce qu'on appelle une diverticulite. Mais quand on n'a pas cette inflammation, c'est une diverticulose. Et il y a un certain nombre de consignes alimentaires pour éviter que ça ne s'infecte. Par exemple, augmenter les fibres alimentaires, donc on va plutôt privilégier les fruits, les légumes, les légumineuses comme les lentilles. Par exemple, il faut boire, s'hydrater correctement, manger moins de viande rouge et puis il y a les probiotiques qui peuvent être efficaces. Et si en plus vous rajoutez un zeste d'activité physique, ça sera parfait et vous n'entendrez pas parler de votre diverticulose.
Troisième question, toujours au 3921.
Bonjour docteur, je m'appelle Sylviane, j'appelle du Val d'Oise. Ayant été opérée des varices, des saphènes, ayant une insuffisance veineuse notoire, des varicosités permanentes, les jambes lourdes, pourquoi les ayant fait aussi une double fébrite, pourquoi les médicaments qui soulageaient les jambes ne sont plus pris en charge? Merci.
Alors Sylvia, nous soulevait le problème des déremboursements de médicaments qui ont un service médical rendu qui est insuffisant. Et ce fameux SMR, ce service médical, il était insuffisant pour les vénotoniques. Toutes les études avaient montré qu'il y avait une efficacité, mais une faible efficacité. Alors le problème, c'est qu'ils ont été déremboursés. Et quand on dit insuffisant, ça ne veut pas dire un service médical nul. Et donc il y a des patients qui pouvaient en bénéficier et malheureusement qui doivent sortir de leur poche. Il y a d'autres petits moyens quand même, on en a parlé dans cette émission. Et je vous donne juste un truc, Sylviane. Oui. Prenez bien le réflexe de passer vos jambes sous l'eau froide le matin et le soir. Ça va être le moyen de renforcer le tonus de vos veines.
Merci docteur Gérald Kirzek pour tous vos conseils. On se retrouve demain, Gérald, pour parler de méditation. Ça va vous faire du bien. Ce qui fait du bien aussi, c'est Anne Roumanoff. Et ça tombe bien, elle est là avec son blouson de cuir rouge, ses bottes, mais pas sa moto. Bonjour Anne.
Bonjour Elena.
Alors aujourd'hui, lundi,
aujourd'hui, on
super.
Est en pleine forme. On vous parle du printemps, on vous parle du débat de ce soir, on vous parle de la francophonie.
Eh bien, on vous retrouve juste après les titres d'Europe Midi présentés aujourd'hui par Maxime Switek et Anissa.